Le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique a affirmé que les récentes émeutes en Iran, avec l'appui des étrangers, étaient une guerre mondiale, mais les jeunes Iraniens ont porté un coup fatal au complot ourdi par l'Occident pour déstabiliser le pays. Deux explosions secouent une base militaire israélienne et un poste contrôle en Cisjordanie. Et le secrétaire général des Nations Unies a salué le lancement de la phase finale du processus politique au Soudan. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI, a affirmé que les récentes émeutes survenues en Iran, avec l'appui des étrangers, étaient une guerre mondiale. Mais les jeunes Iraniens ont porté un coup fatal au complot ourdi par l'Occident pour déstabiliser le pays. En allusion aux émeutes qui ont éclaté en Iran à la mi-septembre 2022, lors d'une cérémonie, lundi 9 janvier, le général de division Hossein Salami a indiqué « Dans une tentative de sédition et de guerre mondiale, nos ennemis ont cherché au cours des derniers mois à fermer les écoles, les universités et les centres économiques de l'Iran et à faire semer le chaos dans le pays. Mais les jeunes Iraniens, les femmes et les filles, ne les ont pas suivis, faisant ainsi échouer leur projet. » D'après le commandant en chef du CGRI, ceux qui se font l'écho des appels occidentaux à poursuivre les émeutes en Iran cherchent à ruiner le pays et à entraver son progrès. Le général Salami a également noté que les puissances arrogantes cherchent à déstabiliser les pays de la région, faisant référence au complot concocté par le bloc occidental contre des pays musulmans tels que l'Irak, la Syrie, le Yémen et l'Afghanistan. Complots qui ont provoqué de vastes destructions dans les 10 pays. La présence des puissances arrogantes dans la région n'a aucun autre résultat que la misère, la faim et la mise en errance des civils. Au Yémen, en Afghanistan, en Syrie, en Irak et en Palestine, nous voyons les impacts de la présence des ennemis dans les pays musulmans, a affirmé le général Salami. Soulignant l'échec des ennemis à vaincre la puissante République islamique d'Iran, le commandant en chef du CGRI a déclaré que la guerre fait toujours rage et l'ennemi ne s'est pas calmé, mais nous allons le calmer et le vaincre. Il a déclaré que les combattants iraniens sont tout à fait prêts à sacrifier leur vie pour le bien du pays, ajoutant « Ils n'ont pas peur de l'ennemi et sont déterminés à le vaincre sur divers plans ». Le président du Parlement iranien a qualifié d'exemple clair de terrorisme d'État l'assassinat du général Rassem Soleimani et de ses compagnons lors d'une frappe aérienne américaine dans la capitale irakienne Bagdad il y a 3 ans. Mohamed Barel Ghalibaf l'a dit lors de la 13e session de l'Assemblée parlementaire asiatique APA à Ankara, la capitale turque. Il a rappelé le crime ignoble commandité par le président américain de l'époque Donald Trump contre les héros internationaux de la lutte contre le terrorisme. Le 3e anniversaire du martyre du général Soleimani et du commandant adjoint des unités de mobilisation populaire irakienne Ashtal Shabi Abu Mati al-Mohandes a été commémoré la semaine dernière avec une immense ferveur en Iran et dans d'autres pays de la région. Le président du Parlement iranien, un ami proche et associé du général Soleimani, a déclaré que l'ancien commandant de la force rote du CGRI a passé sa vie à servir sincèrement la sécurité régionale et mondiale et a pris des mesures efficaces contre le terrorisme international et les groupes Takfiri. Trump et tous ses complices adjoints doivent être tenus responsables devant les tribunaux et les organes judiciaires concernés, a dit le président du Parlement iranien. Ailleurs, dans ses remarques, M. Ghalibaf a déclaré que la question de la Palestine et de son peuple opprimé méritait une attention plus sérieuse de la part des cercles internationaux. « Nous estimons que la solution finale à la crise palestinienne sera possible non pas par des plans imposés en vue de consolider l'occupation, mais bien par référence au vote du peuple palestinien, au retour des réfugiés palestiniens dans le pays et à l'établissement d'une paix équitable », a-t-il souligné. Il a affirmé la volonté de l'Iran de surmonter les défis existants et d'atteindre des objectifs communs entre les pays de la région, en particulier en renforçant les institutions du multilatéralisme. L'Assemblée parlementaire asiatique est l'une des institutions les plus importantes d'Asie, qui joue un rôle dans la promotion du multilatéralisme. L'Assemblée de cette année est organisée par la Turquie entre les 9 et 10 janvier, avec 7 pays participants au niveau de président et 4 pays participants au niveau de vice-président. Deux explosions dans des zones militaires israéliennes ont été signalées lundi soir, 9 janvier, en Cisjordanie occupée. La radio de l'armée israélienne a rapporté qu'une explosion a eu lieu à l'intérieur d'une base militaire israélienne dans la région de Jenin. La nouvelle a été également annoncée par les médias palestiniens. Bien que l'explosion ait détruit les salles de commandement à l'intérieur de la base militaire d'Avna Havetz, l'armée israélienne a affirmé que l'explosion n'avait fait aucun blessé. La cause de l'explosion reste toutefois incertaine. Alors que le porte-parole de l'armée israélienne a déclaré que l'incident faisait l'objet d'une enquête, le site internet israélien Voilà rapporte que l'hypothèse d'une attaque ayant provoqué l'explosion est peu probable. Le moment de l'explosion a rendu plausible la théorie d'une attaque car l'armée israélienne a fréquemment attaqué Jenin et d'autres régions en Cisjordanie, tuant et blessant de nombreux Palestiniens. À peu près au même moment, une autre attaque également par engin explosif a eu lieu au poste de contrôle militaire israélien de Ralandia. Des témoins palestiniens ont déclaré qu'un engin avait été lancé sur des soldats israéliens. Pendant ce temps, les brigades des martyrs d'Al-Aqsa, la branche armée du mouvement Fatah, ont revendiqué l'attaque contre le poste de contrôle, indiquant qu'aucun de ces combattants n'avait été blessé lors de l'opération. En France, c'est une semaine décisive qui commence. Selon la Dépêche, le gouvernement s'apprête en effet à dévoiler ce mardi 10 janvier sa réforme explosive des retraites. La première ministre Elisabeth Borne pourrait proposer lors d'une conférence de presse un report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans au lieu de 62 ans actuellement, après avoir envisagé 65 ans. Pour entrer dans les détails, l'on pourrait également évoquer l'allongement de la durée de cotisation, un suivi médical renforcé pour les risques ergonomiques et la création d'un minimum de pension à 1 000 euros net en 2022, qui sera porté à 85% du SMIC net, 3 ans plus tard. À l'approche de la présentation officielle par Elisabeth Borne de la réforme, le 10 janvier, le secrétaire général de la CFDT redit son opposition à un report de l'âge légal et met en garde l'exécutif contre un embrassement social. Selon Le Parisien, Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, première organisation syndicale de France, attend néanmoins de la première ministre qu'elle lâche du lest le 10 janvier sur plusieurs des mesures de compensation, comme les carrières longues et les petites retraites. La Grande-Bretagne envisage de fournir environ 10 chars Challenger 2 à l'Ukraine pour la première fois depuis le début de l'opération militaire spéciale russe. Cependant, la décision finale sur l'approvisionnement des chars n'a pas été encore précise. Fin décembre, le ministre ukrainien des Affaires étrangères a déclaré que Kiev espérait recevoir des chars des pays occidentaux en 2023. Le premier ministre britannique, Rishi Sunak, avait déjà annoncé l'intention de la Grande-Bretagne de maintenir ou d'augmenter l'assistance militaire fournie à l'Ukraine en 2023. Moscou a dénoncé le flux d'armes vers l'Ukraine en provenance de ses alliés occidentaux, affirmant que cette mesure ne faisait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué lundi 9 janvier le lancement de la phase finale du processus politique visant à rétablir une transition dirigée par des civils au Soudan, a déclaré son porte-parole. Cette étape s'appuie sur les progrès réalisés lors de la signature de l'accord cadre politique le 5 décembre 2022. Il s'agit d'une étape cruciale dans le processus visant à réaliser les aspirations du peuple soudanais à la démocratie, à la paix et au développement durable, indiqué dans une déclaration Stéphane Dujarric. L'ONU, par le biais du mécanisme trilatéral composé de la mission intégrée des Nations Unies pour l'assistance à la transition au Soudan, de l'Union africaine et de l'Autorité intergouvernementale pour le développement, reste déterminée à soutenir ce processus et à aider le Soudan à parvenir à un accord politique définitif au cours des prochaines semaines, a-t-il dit. Pour garantir un règlement durable de la crise, le secrétaire général souligne l'importance d'inclure le plus large éventail possible de parties prenantes au Soudan, dont les femmes, les jeunes et la société civile. Il exhorte également les principales parties prenantes n'ayant pas signé l'accord du 5 décembre à se joindre au processus politique. Enfin, il souligne l'importance d'un soutien international fort et coordonné au processus politique dans le cadre du mécanisme trilatéral, a-t-il déclaré. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Les ennemis ont cherché à freiner le progrès de l'Iran, a souligné le leader de la révolution islamique. Le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Sayyed Ali Khamenei, a déclaré que les ennemis avaient cherché à freiner les progrès et la force de l'Iran lors des récentes émeutes violentes à travers le pays. Les émeutiers ne sont pas descendus dans la rue pour dénoncer les problèmes économiques qu'ont suivi les sanctions occidentales, a-t-il souligné. L'Ayatollah Khamenei a fait ses remarques ce lundi 9 janvier à Téhéran, alors qu'il s'adressait à un groupe de personnes venues de Rome à l'occasion de l'anniversaire du soulèvement populaire dans la ville sainte contre l'ancien régime Pahlavi, soutenu par les États-Unis en 1978. Il ne fait aucun doute que nous sommes confrontés à des problèmes économiques. Mais ces problèmes peuvent-ils être résolus en mettant le feu à des poubelles, en descendant dans la rue et en provoquant des émeutes? Ils ne voulaient pas remédier au problème, mais plutôt anéantir les forces et les points forts de la nation iranienne, a souligné le leader de la révolution islamique. L'Ayatollah Khamenei a souligné que les ennemis étrangers étaient ouvertement impliqués dans les émeutes dans le pays, tandis que les États-Unis et les pays européens alimenter explicitement les troubles d'une manière ou d'une autre. Le leader a déclaré que le tapage médiatique visait à créer l'impression que les émeutiers étaient mécontents des problèmes économiques et des lacunes dans les secteurs économiques et autres du pays. Le guide suprême de la révolution islamique a cependant noté que ce qu'il voulait n'était pas de faire disparaître les lacunes. Le but, a-t-il dit, était plutôt d'éliminer les points forts du pays. Il a pointé du doigt les tentatives visant à porter atteinte à la sécurité nationale de l'Iran, à freiner les progrès scientifiques du pays par la fermeture de centres éducatifs et scientifiques, à entraver la croissance de la production nationale et à nuire à divers secteurs en pleine expansion, comme celui du tourisme. L'Ayatollah Khamenei a fait remarquer que les ennemis ont mis en avant leur implication dans les récentes émeutes par le biais de la cyberpropagande et via des médias occidentaux et certains médias régionaux. Le leader de la révolution islamique a souligné que les actes commis par les émeutiers s'apparentaient à de la trahison, appelant les institutions compétentes et les responsables de l'État à traiter avec sérieux tout acte de trahison. Depuis que Mahsa Amini, une jeune Iranienne de 22 ans, est décédée à l'hôpital le 16 septembre, 3 jours après avoir fait un malaise dans un poste de police de Téhéran, des émeutes soutenues par l'étranger ont éclaté dans plusieurs provinces iraniennes. Une enquête a attribué la mort d'Amini à son état de santé plutôt qu'au coup présumé que lui aurait porté la police. La violence engendrée par ces émeutes a coûté la vie à des dizaines de personnes et aux forces de sécurité, sans compter les attaques terroristes qui ont eu lieu dans tout le pays. Au cours des 3 derniers mois, les terroristes ont incendié des biens publics et torturé à mort plusieurs membres du Basij et des forces de sécurité. Dans le cadre de leur politique anti-iranienne, les États-Unis et leurs alliés européens ont fermement soutenu la poursuite des violentes émeutes en Iran et n'ont pas ménagé leurs efforts pour attiser les troubles dans le pays.